Je vais passer rapidement la parole à Armando qui va nous parler sur la pudeur de l'histoire.
Mais il n'y a pas de texte pour moi.
Désolé,
on va lire ensemble.
Bonsoir. Alors, mon intervention est, comment dire, est le fait des trois parties. Je pense que les trois vont se rassembler l'une après l'autre, mais vous allez voir, c'est des coupures, je ne sais pas si logique, mais en tout cas, la logique que je suis, c'est un peu la question du témoignage. Et si parler, c'est témoigner, et comment, de quelque sorte, Lacan a déconstruit cette question. Donc, et la pudeur de l'histoire. Je voudrais, je prends pour introduire une citation du séminaire 7, où Lacan dit, je voudrais introduire en parallèle à la fonction du beau, une autre fonction que j'ai déjà ici nommée à plusieurs reprises sans jamais trop insister, mais qui me paraît pourtant essentielle à produire, je le souligne essentielle à produire, et que nous appellerons Eidos, autrement dit la pudeur. La pudeur échappe à toute tentative de maîtrise et elle ne défend pas un jardin secret comme les attentes d'autrui. Ce qu'elle défend avec intransigeance, c'est de se prêter au semblant. Ce qu'elle fuit, c'est la complaisance des commandes et l'exhibition forcée. Voilà une tentative de définition qui donne Patrick Auchard de la pudeur. Pour Lacan, elle est la seule vertu essentielle à produire comme effet du discours analytique. J'ai emprunté mon titre à Jorge Luis Borges, mis à part, bien entendu, les I grecs, qui, comme vous le savez, c'est la proposition d'écriture que Lacan fait de l'histoire. Dans son bref texte, Borges fait une opposition entre deux mouvements de l'histoire. Il fait allusion à la bataille de Valmy en 1792, à partir de laquelle, selon lui, les journées historiques ont abondé. Depuis cette date, une des fonctions du pouvoir sera de fabriquer ou même simuler de telles journées à partir de la propagande ou la publicité. Borges oppose ce type d'histoire, plutôt d'origine journalistique, à celle qu'il appelle la véritable histoire, laquelle il qualifie de pudique et dont les dates restent souvent secrètes longtemps. C'est une façon de dire que la vraie histoire échappe à la grande histoire. Il me semble que Lacan, dans son retour à Freud, a fait une proposition similaire quand il propose une lecture inédite de la grande histoire à partir de l'histoire écrite avec Y. Le savoir propre au discours analytique s'est construit dans l'obscurité de l'ignorance et non dans la lumière de la vérité. Le savoir du psychanalyste est un savoir inscrit dans les réels, un savoir inédit qui porte les marques du savoir scientifique. La science n'a transmis au discours analytique que les revues de la docte ignorance, c'est-à-dire un désir inédit. Petite préhistoire du discours analytique. Donc, et là, je reprends un peu Freud par rapport à sa position. Il me semble qu'un désir propre au discours analytique est un désir qui n'est pas en lien avec l'événement historique. Il s'oriente pas vers la grande histoire, mais vers une autre chose que Lacan appelle les réels. Rappelons deux mouvements majeurs chez Freud vers cette orientation par les réels. La première, en 1896, Freud abandonne l'hypnose suite à la découverte de la résistance, dépassant ainsi l'idéologie du secret et de l'aveu de son époque. C'est un premier acte de Freud. Le deuxième est l'abandon de sa neurotica. Il fait souligner la portée historique de ces mouvements de Freud qui vont contre la pensée scientifique de son temps, c'est-à-dire contre les factuels et l'événement. Il propose alors une théorie de la sexualité infantile et les complexes d'Œdipe. La théorie du trauma est donc relayée par celle du fantasme, le désir de Freud étant d'accéder à la première scène, la scène traumatique fantasmée, un désir comme celui de l'archéologue qui fait sortir de l'oubli une ville engloutie
à partir d'un seul fragment du passé. C'est à ce moment-là qu'il va se confronter à l'hystérie. Avant cette rencontre, nous pouvons dire que Freud n'était pas freudien, c'est Dora qui les mettra sous les droits chemins. Dans sa quête des premières scènes traumatiques de l'enfance, Freud va trouver une nouvelle réalité, les récits fictifs. Je cite Freud. Lorsque les hystériques rattachent leurs symptômes à des traumatismes inventés, les faits nouveaux consistent précisément en ce qu'ils s'imaginent ces scènes, ce qui nous oblige à tenir compte de la réalité psychique autant que de la pratique. Freud est à la dérive face à cette nouvelle découverte qui est un indice du réel. Dans sa neurotica, ce qui était caché, c'était le réel du père. Freud a abandonné l'idée de la séduction par les pères, de l'hystérie, pour retrouver la haine pour les pères liée au désir des parricides, ce qui est abject, impudique, mais réel. Nous savons aujourd'hui qu'en proposant à Dora sa théorie de la masturbation infantile, Freud suivait son propre fantasme d'une reconstruction historique possible à partir d'une idée de profondeur et du secret. Les fantasmes ou les faux souvenirs sont présents chez Dora, mais aussi chez l'homme au loup, pour cacher un secret. Nous ne ferons pas ici le catalogue des préjugés de Freud, mais plutôt l'intérêt de l'observation du cas de Dora, qui a permis de mettre à jour la relation qui existe entre les symptômes et structures et la position de l'analyste dans la cure. Le 4 mai 1974, Lacan rappelait que l'analyste est une reproduction de la névrose, c'est-à-dire créer une névrose de transfert, ce qui laisse de côté la question de savoir si la rencontre avec les parents traumatiques, comme on les nomme Lacan, a été de l'ordre de la réalité ou du fantasme. L'important étant la place que l'analyste vient occuper dans la cure en tant qu'objet. À partir du cas de Dora, Freud va pouvoir mettre en évidence la structure propre à l'inconscient concernant l'oubli. Il existe un travail d'oubli, mais la clé de ce travail échappe au sujet lui-même. Un des points essentiels, il me semble, de cette rencontre avec l'hystérie est la mise à plat de la somme des préjugés concernant la féminité. Freud reconnaît que l'intérêt de l'observation de Dora n'a pas été le travail analytique, donc technique, mais la mise à jour du lien entre les symptômes et la structure. Il va laisser tomber au cours du traitement son désir de guérir le symptôme pour s'occuper de la manière comme l'inconscient met en place un ordre chronologique particulier propre au travail de l'oubli. Freud manquait d'un élément essentiel concernant la place qu'il occupait lui-même dans les transferts. Préjugé de Freud concernant Dora était qu'une fille est faite pour aimer les garçons, il renoue avec la doxa par laquelle il bat de soi une inclination précoce de la fille pour son père et du fils pour sa mère. Lacan signale que le savoir de Freud fait résistance à la mise en lumière par Dora de la dissymétrie du rapport entre les sexes. La résistance est donc du côté de l'analyste. Soulignons les déplacements que produit Lacan pour mettre à sa place la responsabilité de l'analyste dans les transferts. Lacan rassemble les désirs et l'interprétation. Les désirs de l'analyste, c'est en somme, dit Lacan, l'interprétation elle-même. Ce qui veut dire que le défi pour chaque analyste est de surmonter les préjugés propres à son époque pour accomplir sa tâche. Le désir de Freud, d'après l'interprétation de Lacan, était celui de couper une place des maîtres du transfert, mais en occupant cette place, les réels mis en jeu dans l'histoire, lui, en échappaient. Les hystériques sont bien placés pour dire la vérité sous les rapports sexuels. Freud venait occuper la place du maître des vérités. L'adéquation de la psychanalyse à la réalité n'est pas mesurable à partir du fait réel, mais d'un autre terme qui est un terme majeur chez Freud. Gewissheit, certitude, terme cartésien, il s'agit de ce dont on peut être certain. Freud produit une coupure inédite dans l'histoire de la pensée. Il déduit la vérité du mensonge et des extensions de la parole. La science, en revanche, s'appuie sur des certitudes, des dates et non des faits vécus. Dans ce sens-là, la science est une idéologie de la suppression du sujet. La réintroduction de Freud de la question du désir de la science ou du désir du savant est une coupure dite majeure dans l'histoire. Freud et Lacan sont subversifs par rapport à tout l'édifice culturel. Ils ordonnent les valeurs du bien, du beau et du vrai. Lacan rajoute un quatrième propre discours analytique, la pudeur, dont nous reviendrons à la fin. Continuons encore avec Freud et son idée de construction. Le cas de l'homo rat montre les étapes de ces montages auxquels Freud procède pour reconstruire l'histoire. Il signale comment le destin de cet homme ne dépend pas seulement de la série d'événements vécus, mais aussi par les mythes véhiculés par l'histoire de ses parents. En effet, la dette du père est une dette infinie et impossible à éteindre. Il est très frappant de voir comment Freud est à l'aise dans la description du cas, une fois qu'il a trouvé les signifiants clés de l'histoire du sujet, qui sont en lien avec l'expérience vécue et pas par la réalité. C'est donc un travail de construction de l'histoire qui s'est fait via les transferts. Dans les cas de l'homo rat, Freud montre comment la réalité psychique a plus d'importance que la réalité matérielle. C'est la réalité psychique qui la détermine. Lacan le souligne clairement, la reconstruction de l'histoire de l'homo rat est matériellement inexacte. Avec le cas de l'homo rat, Freud prend la mesure de la dimension mythique qui est présente de façon épique dans les cas. Le principe de réalité est dirigé par une fonction qui est en lien avec les pères des origines. La réalité psychique est suspendue à la fonction paternelle. Dans l'analyse de Schreber, Freud emploie les termes de reconstruction, mais d'une manière opposée à la défense, comme une tentative de retour à la réalité. Les délires succèdent à la perte de réalité. Freud dit « ce que nous prenons pour une production morbide, la formation du délire est en réalité une tentative de guérison, une reconstruction ». Un rapport étroit entre l'écriture et la construction de l'histoire fait dire à Lacan que c'est la reconstruction complète de l'histoire du sujet qui est un élément essentiel, constitutif et structural du progrès analytique. Pour conclure cette partie de mon exposé, je voudrais faire allusion à ces moments de Lacan concernant Socrate, précurseur de l'analyse, qui met au pied du mur les maîtres. Lacan, dans sa ronde des discours, positionne Socrate dans les discours hystériques, puisqu'il se dérobe à être désiré comme objet 1. Il est à la place du désirant. Ce mouvement de Lacan va ouvrir un champ nouveau, la place du discours analytique dans l'histoire. Pour cela, il a fallu attendre que Lacan puisse inventer l'objet petit a et ensuite qu'il puisse proposer les discours analytiques pour montrer la nouveauté de la découverte freudienne. Maintenant, je voudrais reprendre une querelle entre Foucault et Lacan concernant donc ces questions de la lecture de l'histoire à partir des deux propositions, la lecture de l'histoire chez Foucault et Lacan, comment reprendre l'événement de Freud. Un texte qui reste fondamental pour comprendre la démarche de Foucault concernant l'histoire est Nietzsche, la généalogie, l'histoire. Foucault pose la généalogie à la recherche historique des origines. Pour cela, il fait allusion à l'emploi des différents mots utilisés par Nietzsche pour parler de l'origine. Foucault se pose la question de savoir pourquoi Nietzsche a dû s'imposer cette rigueur dans l'emploi des termes différents pour parler de l'origine. La démarche généalogique de Foucault ne prétend pas remonter l'histoire pour reconstruire une continuité dans les temps. Il ne s'agit pas de prouver que les éléments du passé sont bien là, dans les présents, rien à voir avec l'idée de la nature ou de l'évolution. La notion d'événement est ici essentielle. Pour les philosophes, un événement est l'irruption d'une singularité historique. Foucault a eu à faire beaucoup de critiques de la part des historiens à cause de cette conception de l'événement. une caractéristique de Foucault est qu'il a tenu compte du corps. Pour lui, le corps est une surface où l'événement historique s'inscrit. Il définit la généalogie comme l'analyse de la provenance et donc à l'articulation du corps et de l'histoire. Elle doit montrer les corps tout imprimés d'histoire et l'histoire ruinant les corps. Mais pour Foucault, même le corps n'est pas suffisamment fixe et stable pour que les hommes puissent se reconnaître entre eux. Il faut introduire les discontinus pour que l'histoire puisse être effective. Les discontinus dans l'être même. Jean-Claude Milner a repris cette question de la discontinuité comme la version particulière d'une opération qui n'a rien de nouveau. Selon Milner, dans les années 60, avec l'éruption du structuralisme, un axiome fait son retour. Il y a des coupures. Une des manières de lire l'histoire est de parler de l'avant et de l'après un événement spécifique. Milner fait la différence entre Foucault et Lacan par rapport à cet axiome. En effet, d'après lui, Foucault n'accepte pas l'axiome selon lequel il y a des coupures, mais propose plutôt l'existence des hétérogénéités entre les discours, qui laisse des traces repérables et datables dans une chronologie, telle qu'il est possible de constituer une archive. La particularité de ces traces est qu'elles ne peuvent pas être rassemblées ou généralisées. Foucault reste sceptique quant à l'existence des coupures. Il tente de démontrer l'hétérogénéité des discours et leur discontinuité qui n'affecte pas forcément les autres discours. Lacan, en revanche, accepte l'existence d'une coupure que Milner appelle majeure, en ce sens que, d'après la thèse de Coiré et Kojève, il y aurait une certaine coupure qui affecte non seulement un discours, mais plusieurs autres. Le sujet de la psychanalyse dépend en quelque sorte de cette coupure. À partir de là, Lacan propose que les sujets sur quoi nous opérons en psychanalyse ne puissent être que les sujets de la science. Chez Foucault, nous ne retrouvons pas cette coïncidence dans les coupures. Il y a une certaine impossibilité à corréler une coupure avec une autre. Chaque discontinuité, qui n'implique pas forcément une coupure dans le sens de Kojève et Coiré, est indépendante des autres. C'est pour cette raison qu'il est amené à écrire une histoire pour chaque discontinuité historique. Une histoire de la folie, une archéologie des sciences humaines, une histoire de la sexualité. Pour conclure sur ces points, soulignons que pour Lacan, Freud n'est pas un événement historique. Ce qui fait coupure est l'orientation non vers le réel, mais par le réel. Ça change tout le sens de l'histoire. Avec l'Y de l'histoire, Lacan introduit une nouvelle temporalité dans la structure. Les heures, les années tournent autour du vide central du désir laissé par Freud. À partir de ce vide central, Michel-Louis Serroux propose de lire l'histoire comme rien d'autre que le tort, étant donné que la rencontre avec le tort produit des contraintes propres qui font que le temps n'est réel qu'en tant qu'il rentre dans un tort. Je vous renvoie aux travaux de Michel-Louis Serroux sur ce point. Lacan tient beaucoup à cette coupure historique, mais aussi à la coupure propre à la tâche analytique qui est l'interprétation. L'effet de coupure est un effet topologique qui permet de montrer l'envers du discours. C'est donc l'interprétation qui met à jour la structure de l'inconscient. Ce point n'est pas une coquetterie intellectuelle, c'est grâce à Lacan et à la mise en place de ces théories des discours que les discours analytiques n'est pas une simple discontinuité de l'histoire comme on le voulait Foucault ou un avatar de la science moderne. Le discours analytique possède un objet qui lui est propre et sa survie dépend du dispositif qu'il a inventé pour en montrer la particularité du savoir propre à la psychanalyse qui ne ressemble à aucune autre. Ce dispositif est la passe. Quelques remarques sous la pudeur chez Lacan. Dans son séminaire RSI leçon du 11 février 1975, Lacan fait allusion à l'origine de la découverte de l'inconscient et à l'effet des réveils qu'il a produit à l'époque de la reine Victoire. Un excès de passion victorienne pour la moralité bourgeoise et les refoulements. Il fallait les ravages de la morale pour faire place à l'inconscient. Mais la libération produite par l'arrivée du discours analytique est plus du côté du langage que celle des mœurs. La psychanalyse permet de traiter certains sujets loin du moralisme et de la fausse pudeur, mais avec l'audace du bien dire. L'introduction du terme pudeur est en lien avec la question des langues. La première fois que Lacan y fait allusion est dans son texte La signification du phallus en 58. Il ne parle pas de pudeur directement, mais d'aidos, et à côté, il écrit sham, qui en allemand et en anglais signifie honte et pudeur à la fois. Lacan se décale de Freud et propose de montrer la place et l'importance de la pudeur. La même année, dans le séminaire 6, Les désirs et son interprétation, Lacan donne l'exemple tiré du film de Jean Renoir, La règle du jeu, un personnage joué par Dalio, qui est un collectionneur notamment des boîtes de musique. Un soir, devant une assistance nombreuse, il dévoile sa dernière trouvaille, une des plus belles boîtes à musique. Nous sommes dans un bord, un moment de dévoilement d'un secret, Lacan dit. Le personnage est littéralement dans une position qui est celle de ce que nous pouvons appeler la pudeur. Ce que le sujet montre, c'est justement ce que le sujet ne peut dévoiler. C'est fussé à lui-même. C'est quelque chose qui est au bord même du plus grand secret. À la fin de l'expérience analytique, ce que le patient vient montrer, il me semble, est de cet ordre. Une partie de lui-même qui est plus intime et en même temps les plus extérieures à lui. Extime, dit Lacan. Lacan ne disposait pas à ce moment-là de son enseignement de l'objet petit a, mais par la pudeur, il a pu anticiper, me semble-t-il, un bout de cet objet et son lien avec l'évanouissement du sujet quand il fait son apparition. Quand l'objet petit a se montre, le sujet ne peut se nommer, d'où l'importance de la nomination par autre extérieur à lui. Je cite Lacan, toujours dans le séminaire 6, « Le sujet ne peut pas se nommer, c'est un quoi ou la pudeur et, dirais-je, la forme royale de ce qui s'est monné dans les symptômes en honte et en dégoût. » 16 ans après le séminaire 6, dans le séminaire Les noms du R, Lacan revient sur cette question de la pudeur pour anticiper ce que nous connaissons aujourd'hui, sa presque disparition. Il insistait sur son importance dans l'histoire du nouveau romain. Il pose la question, est-ce que le bien dans cette histoire du nouveau romain peut se situer quelque part? Si les vrais et les beaux n'ont pas tenu les coups, je ne vois pas pourquoi les biens s'en tirerait mieux. La seule vertu que je vois sortie de cette interrogation, je vous l'indique là pendant qu'il en est temps, parce qu'on ne la verra plus. La seule vertu, si elle n'a pas de rapport sexuel, comme je l'énonce, c'est la pudeur. Témoignage aux pédagogies de la mémoire. Annelise Enstern, psychanalyste déportée en 1944 à Auschwitz-Birkenau, dans son livre Un savoir déporté, résume cette tendance propre au discours qui consiste à traiter les sujets comme un document vivant. Elle dit qu'un impératif se dégage de manière très riche de ces faits pervers de la pédagogie de la mémoire. Cet impératif est « soit déporté et témoigne ». Mettre les fers à la langue et la faire cracher ce qu'elle a dit, c'est du côté de l'obscénité. Lacan, quand il a fait sa proposition de la passe, a dû réfléchir à la question du témoignage. Il définit la passe à la fin de son enseignement comme un récit devenu une simple histoire à raconter. C'est une histoire pleine de détails, des objets algalmatiques. Il était conscient du moment délicat de ces passages du privé au public qui impliquent les témoignages de la passe. Être à l'auteur suppose que l'AE l'ouvre, disait en 1980, dans les séminaires Dissolution. Mais n'importe pas comment, il faut les bien dire qui n'est gouverné que par la pudeur. Pour Lacan, la personne qui peut témoigner est justement celle qui est à la tâche, à la brèche de résoudre son transfert. Le témoignage est un lien avec les moments de l'histoire du sujet bien particulier. On ne peut pas témoigner n'importe quand parce qu'il s'agit de produire la pudeur. Il n'y a pas d'incitation possible, mais un choix éthique de la part de l'analyste pour proposer un analysant pour qu'il devienne éventuellement passeur et de la part du passeur d'accepter cette désignation comme un acte de transmission. La structure à trois est prédominante dans les dispositifs de la passe. Témoigner relève de la transmission, le quatrième élément étant l'objet petit a, comme le rébus de l'expérience, comme le seul élément qui a pu passer de la jouissance à l'inconscient, c'est-à-dire à la comptabilité, dans les doubles sens qu'on peut les compter et les raconter. Les bien-dire va contre les tout-dire, lui permettant de trouver une juste distance avec la vérité. Je cite Lacan, si les bien-dire n'est gouverné que par la pudeur, eh bien, ça choque forcément, dit Lacan, ça choque, mais ça ne viole pas la pudeur. Le lien avec l'objet petit a est évident, l'enjeu de la passe étant de montrer à travers un dire ce qui a eu lieu. Le discours analytique est une sorte de réponse à l'irréprésentable, l'indicible et à l'impudique de la langue, dans un seul mot. Le lien entre la langue et l'objet petit a est d'origine. Lacan parle même d'une pudeur originelle qui est le point le plus important où il pringite les purs défauts du sexe. Le moment où les démons de la pudeur montrent sa barre est justement le moment où l'analysant est encore impliqué par les transferts, mais il est en même temps détaché. C'est le moment de conclure, la déconclure, le moment où il n'y a plus rien à voir. Circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est l'impératif du discours de la science. La réponse de la psychanalyse est oui, il y a la passe, une fin pudique qui dévoile sans violer les plus intimes du sujet. La procédure produit un nettoyage de la pruderie et de la honte qui souvent précède les témoignages et qui fait varier résistance pendant la cure. Le témoignage est un lien avec la question du style, les deux demandent une extrême audace. N'avoir plus d'honte de les dire par l'opération langagière qui lui permet de mettre les voiles sur ce qui a été mis à nu, dénuder des semblants. Freud était le premier à dévoiler sa vie privée, à livrer au monde scientifique ses rêves les plus intimes pour inventer une expérience. Le discours analytique a produit cet inédit supplémentaire qui est la limite du dire. Les prix à payer du dire et les dévoilements logiques et topologiques de l'objet petit a. Dans l'acte du témoignage de la passe, il me semble qu'il y a une dimension historique et en même temps une dimension intime. Les deux sont noués par l'acceptation que tout n'est pas symbolique, qu'il existe un réel sans loi, mais aussi accepter qu'à partir du symbolique, le sujet peut mentir et qu'au fond, le symbolique est lié à la jouissance du corps parlant. Le symbolique n'est pas simplement une structure, mais aussi un appareil. Je ne peux pas les développer ici, mais le passage de la structure du langage vers l'appareil du langage marque aussi chez Lacan un moment d'élaboration où la langue devient la langue dans un seul mot, la lettre devient littérature et la parole devient la apostrophe à parole. Le risque aujourd'hui est de devenir document vivant dès son misérable petit secret. Le savoir déporté, c'est dit Annelies Ester, c'est un savoir sous les déchets, la loque. La conclusion est que l'objet déchet fait partie de la structure psychique de tout et chacun. Dans l'acte de témoignage, Annelies Ester disait qu'elle éprouvait parfois un sentiment d'impuissance, parfois d'obscénité, et grâce au film Choix, elle a été délivrée, dit-elle, parce que justement on ne voit aucune horreur, aucun document d'archives. C'est le film a fait fonction d'interprétation pour elle. Le discours psychanalytique, j'ai fini, dit Lacan dans l'étourdi, c'est mon frayage et justement celui qui peut fonder un lien social nettoyé d'aucune nécessité des groupes. Comme on sait que je ne ménage pas mes termes quand il s'agit de faire relief d'une appréciation qui, méritant un accès plus strict, doit s'en passer, je dirais, que je mesure l'effet des groupes à ce qu'ils rajoutent d'obscénité imaginaire à l'effet des discours.